J'aimerais parler sur le témoignage d'Éman dans 1 Chronique, chapitre 6 et le verset 31. Voici ce que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéhatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Amen. On va arrêter là la lecture et retenez juste ceci. Éman, fils de Joël, fils de Samuel. Il s'agit du prophète Samuel. On va y revenir tout à l'heure. Déjà, Éman, qu'est-ce que signifie le nom Éman? Vous savez que en hébreu, souvent les noms ont un sens qui donne une direction à la vie des personnes. Et dans le cas de Éman, son nom signifie en français fidèle. Celui qui est fidèle, donc quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Et sa vie, on va le voir dans quelques extraits de l'Écriture, démontre une fidélité à Dieu à toute épreuve. La Bible nous dit aussi qu'il était chantre, c'est-à-dire qu'il conduisait la louange dans le temple, ici, dans le tabernacle, puis dans le temple. Et puis, il avait passé certains moments difficiles dans sa vie. On va le voir parce que, en fait, bien que son grand-père, Samuel, était prophète, son père, Joël, s'est détourné de Dieu. S'est détourné de Dieu, il n'a pas suivi les voies de Samuel. Et donc, il a eu dans sa famille eh bien, un mauvais exemple, un contre-exemple, un exemple à ne pas suivre par son père. Néanmoins, il est quand même devenu serviteur de Dieu. Et le mauvais exemple de son propre père n'a pas été un handicap pour lui, pour servir le Seigneur. Donc, vous pouvez avoir un mauvais exemple dans votre propre famille, mais vous, vous pouvez marcher droit, vous pouvez décider de suivre le Seigneur. Et vous pouvez louer Dieu comme il l'a fait, puisqu'il est devenu chantre conducteur de louanges dans les moments difficiles. D'après les sociologues, on subit l'influence de deux facteurs différents. La première, c'est l'influence, c'est la famille. Donc tout dépend dans la famille dans laquelle on est, ça détermine pas mal de choses. Parce que il y a des familles aisées, il y a des familles, par exemple, chrétiennes. Et puis il y a des familles disloquées, il y a des familles qui sont très loin de Dieu ou il y a des familles qui sont dans des religions extrêmement loin du Seigneur. Et puis, il y a ensuite le contexte, c'est-à-dire les fréquentations, le quartier. Évidemment qu'il y a des quartiers où, par exemple, il y a de la drogue qui circule, où il y a de la violence, il y a un certain contexte qui a une influence sur la vie des personnes. Et puis, il y a des quartiers où on est un peu à l'abri, on est à l'écart de la ville, peut-être plus retiré ou à la campagne. C'est plus favorable pour être la tranquillité. Donc, les deux grands éléments sont la famille et l'extérieur, le quartier, le travail, les relations, les fréquentations. Et dans la vie d'Éman, son nom, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça signifie Éman en français ? Fidèle. Fidèle, eh bien, on va voir que dans la vie d'Éman, il a démontré une fidélité à Dieu malgré, justement, contexte familial négatif et environnement qui aurait pu le pousser dans la mauvaise direction. Ça veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez, vous, même si vous venez d'une famille disloquée, ne connaissez pas le Seigneur, peut-être vos parents alcooliques ou drogués ou loin de Dieu dans toutes les sortes de directions, mais vous pouvez, vous, ouvrir la voie pour votre famille à une nouvelle direction en suivant le Seigneur et en décidant de vous attacher à Dieu et vous apporter la bénédiction dans votre famille. Donc, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle que votre vie sera dysfonctionnelle. Avec Dieu, les choses peuvent changer. Le premier point que je veux voir avec vous, c'est d'abord son héritage familial. Et on va voir qu'il y a plusieurs éléments à mentionner. Alors, Éman, d'abord, on va, disons, brosser en grand angle. Éman venait d'une des tribus d'Israël qui s'appelle la tribu de Lévi. Lévi était connu parmi les fils de Jacob pour sa cruauté. C'est lui qui conduisit ses frères à massacrer une ville entière pour venger sa sœur Dina qui avait été violentée. Et Jacob dit « Maudite soit leur colère ». Alors on va lire Genèse 49, 7 et là il parle de son fils Lévi et de sa violence. « Maudite soit leur colère », donc la colère de Lévi et ses fils, « car elle est violente et leur fureur, car elle est cruelle, je les séparerai dans Jacob et je le disperserai dans Israël. » Il y avait donc une nature violente chez Lévi, mais finalement Dieu a fait grâce à cette tribu. Alors c'est vrai que d'un côté ils ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas eu de territoire. C'est la seule tribu qui n'a pas eu de territoire quand il y a eu la conquête. Ils n'avaient nulle part où aller. Mais néanmoins, c'est la seule tribu qui a été choisie par Dieu pour servir dans le temple. Et donc, ça a été une bénédiction quand même. Et un des ancêtres d'Éman s'appelait Corée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Corée, mais c'était un homme méchant. Il était aussi issu de la tribu de Lévi, donc la tribu normalement dédiée au service dans le sacrifice, dans le tabernacle. Et cet homme, donc de la tribu de ceux qui servaient, il faisait partie des responsables, il a commencé à jalouser Aaron. Aaron, c'était donc le souverain sacrificateur, le sacrificateur principal. Et dans sa tête, il a dit, mais pourquoi tout le monde suit Aaron? Est-ce que nous, les autres Lévites, on n'est pas aussi en contact avec Dieu? Et puis Dieu parle par nous aussi. Et il a quand même rassemblé 250 hommes avec lui. C'est pas rien. Il a réussi à attirer à lui 250 hommes pour se révolter contre Moïse et Aaron. Mais Dieu l'a sanctionné pour sa révolte. La terre s'est ouverte sous ses pieds et il a été englouti avec tous ceux qui l'avaient suivi. Ça, c'est pour montrer qu'on ne peut pas confronter Dieu. Et dans Nombre, chapitre 26, verset 11, il y a quand même une espérance. Parce que si Corée a été sanctionné pour sa faute, la Bible dit « les fils de Corée ne moururent pas ». Les fils de Corée. Heureusement qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas, ils n'ont pas suivi leur père. Ils n'étaient pas proches de leur père parce qu'ils auraient été engloutis de la même manière. Les fils de Corée ne moururent pas. Et en fait, Éman est un descendant des fils de Corée. Il fait partie de ces descendants qui ont été réchappés à la mort. Et puis, un autre élément qu'on peut mentionner, et celui-ci est positif, donc à la fois tribu de Lévi, à la fois descendant de Corée, qui était un homme rebelle, mais en même temps, dans sa lignée, il y a le prophète Samuel. On l'a vu tout à l'heure au verset 33, je crois. Ou 30. Voilà. C'est la fin du verset 33. Donc, il faisait bien partie des Kéatites, descendants de Corée, fils de Joël, fils de Samuel. Ici, Samuel, ici, c'est le prophète Samuel. Donc, quand même, une lignée très spirituelle. On connaît l'histoire de Samuel qui est le fruit du miracle parce que Anne, sa mère, était stérile. Elle venait à Silo chaque année pour prier et puis elle déversait son cœur devant Dieu, disait « Mais pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que tu m'as rendu stérile? Et pourquoi je suis dans cette situation ?» Et elle pleurait devant Dieu. Et elle pleurait tellement, elle priait tellement Dieu, qu'à un moment donné, le sacrificateur Élie a entendu cette femme qui gémissait dans le temple. Et il a compris sa souffrance et il lui a donné une parole de Dieu que l'année prochaine, elle aurait un fils. Il y a eu donc Il y a eu un exaucement, mais il y a eu de la persévérance dans la prière. Et frères et sœurs, parfois, nous allons pleurer, nous allons jeûner, nous allons prier pendant des mois, des années, jusqu'à ce que la situation se débloque, et il faut, comme Anne, persévérer dans la prière. Il y a quelques années de cela, il y a un couple qui m'avait demandé de les voir, et il m'explique la situation, qu'il voulait avoir un enfant, et puis il ne pouvait pas avoir un enfant. Alors on a prié le Seigneur, et on s'est attendu à la situation. Ils m'ont dit, pasteur, priez pour nous, parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Alors on a prié, et puis Dieu a exaucé. Ils ont eu un enfant. Et puis peu de temps après, ils sont venus me voir, ils ont dit, pasteur, priez pour nous, parce qu'on n'arrive pas à dormir la nuit maintenant. Ben oui, parce qu'avec la bénédiction, il vient aussi les difficultés. Et c'est une joie d'avoir un enfant, mais en même temps, ça nous bouscule dans nos habitudes. On dort moins, on est obligé de se lever plusieurs fois la nuit, on doit veiller constamment sur lui, on ne peut pas le laisser tout seul. Il faut toujours avoir un œil. Alors Samuel est une bénédiction qui est arrivée dans la vie d'Anne, mais vous voyez, elle avait fait une prière. C'est là où nous, quand nous prions, nous nous engageons. Elle avait fait une prière à Dieu et elle avait dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. C'est une prière très audacieuse parce qu'en même temps, elle voulait un enfant, mais elle disait, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Vous voyez ? Mais ça a plu à Dieu. Non seulement Dieu lui a donné un enfant, donc le premier-né s'appelle Samuel, mais la Bible dit qu'elle a eu d'autres enfants, elle a eu des fils et des filles par la suite. Donc il y a des prières qui ouvrent le ciel et qui envoient la bénédiction sur votre vie. Alors ça paraissait un peu insensé parce que dire à Dieu, donne-moi un enfant et je te donnerai l'enfant, ça veut dire je le perds. Mais en même temps, quand on perd, en fait on gagne. Quand on perd avec Dieu, on gagne. En réalité, on ne perd pas. Et Samuel a été consacré à Dieu dès son enfance, donc, effectivement, dès qu'il a été sevré, la Bible dit qu'elle a confié cet enfant au sacrificateur Élie. Samuel a été élevé très tôt, donc on pense à partir de 3 ans. Il a été dans le temple et il a commencé à servir, à être enseigné déjà dans la parole de Dieu, bien sûr, enfant. Et puis, petit à petit, même enfant, à entendre Dieu. Et enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Dieu qui a commencé à lui parler. Dieu parle même aux enfants. Il a entendu. Élie n'entendait plus la voix de Dieu parce qu'il était éloigné de Dieu dans son cœur par son attitude envers ses enfants qu'il laissait faire des mauvaises choses dans le temple. Il n'entendait plus la voix de Dieu, mais maintenant c'est Samuel qui va être le porte-parole de Dieu, c'est-à-dire le prophète en Israël. Et c'est Samuel qui a oint le premier roi Saül, qui a oint le deuxième roi David, donc un prophète reconnu en Israël. Malheureusement, et c'est là où je reviens au deuxième nom du verset 33, c'est Joël. Donc il y a eu Éman, non plutôt, pardon, il y a eu Samuel qui est né, qui a eu des enfants, mais nous retiendrons que le nom de Joël, qui est un des enfants de Samuel. Et ce Joël-là, malheureusement, il n'a pas suivi les traces de son père. On va lire 1 Samuel chapitre 8, verset 1. « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël. » On retrouve ce fameux Joël dont il est question ici. Son premier-né, donc le fils aîné, c'était bien Joël. Le second, c'était Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Mais regardez le verset suivant, « Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. » Oui, Dieu avait bien appelé Samuel à cette fonction de prophète et il avait rempli cette fonction. Mais qui est-ce qui avait établi Samuel prophète d'après vous ? Est-ce que c'était Élie qui l'avait désigné prophète ou est-ce que c'était Dieu qui l'avait désigné prophète? C'était Dieu. Mais si vous regardez bien, qui est-ce qui avait établi juge les deux fils de Samuel? C'est Samuel. Au verset 1, Samuel devint vieux. C'est Samuel. Il établit ses fils. Est-ce que Dieu les avait établis juges? C'est pas écrit. Et là, c'est là où on voit toute la différence entre les choix de Dieu et les choix humains. Et quand on fait les choix humains, c'est la catastrophe. C'est ce qui va se passer. C'est la catastrophe. Ils avaient bien été élevés auprès d'un homme de Dieu, oui, mais ils n'étaient pas le choix de Dieu pour la nation. Et comme Samuel, en vieillissant, eh bien, avait, entre guillemets, laissé le laxisme s'installer dans sa propre famille, eh bien, il a choisi ses propres fils, pensant bien faire, peut-être tirant un certain avantage de la situation. Il n'a pas consulté Dieu, en tout cas la Bible ne le dit pas, et manifestement, ce n'était pas la volonté de Dieu, donc certainement qu'il n'a pas prié. On voit qu'ils ne marchaient pas sur les traces de leur père, ils vivaient dans la cupidité, ils violaient la justice, bref, ils n'avaient pas un témoignage crédible. Et si Dieu avait bien appelé Samuel, en aucun cas on voit que Dieu avait appelé ici Joël et Abijah. Donc quand Samuel veut établir ses propres fils, c'est un échec. Pourquoi ? Parce que Dieu établit qui il veut. Et nous, notre rôle, c'est quoi ? C'est de ne pas chercher quelle serait la meilleure personne ou quel serait le meilleur profil, mais c'est de prier Dieu pour qu'il nous conduise vers les bonnes personnes qui vont remplir ces tâches. Alors que Dieu nous aide à faire les bons choix. Et ça, c'est dans la prière, c'est dans la révélation, c'est dans la foi. Le deuxième point, c'est maintenant le contre-témoignage du père d'Éram, c'est-à-dire de Joël. Le père d'Éman était malhonnête. Donc il avait le titre de juge, mais on l'a vu dans le verset précédent. Il ne cherchait pas la volonté de Dieu, il ne cherchait pas à plaire à Dieu, il ne priait pas. Et du coup, Éman a été élevé dans cette famille-là où, bien sûr, il y avait eu un grand-père qui avait suivi le Seigneur, mais son propre père ne marchait pas dans les voies du Seigneur. Donc c'était de l'hypocrisie dans sa famille, c'était de la tromperie, c'était de la dissimulation. Mais à un moment donné, Dieu va régler ses comptes. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. Et ce que Joël a semé, finalement, ça va se retourner contre lui. Il est en train de semer le mal. Alors, quel témoignage laissons-nous à nos enfants? Est-ce qu'ils voient en nous de l'honnêteté, du respect pour les choses de Dieu, ou est-ce qu'ils voient en nous de l'hypocrisie, des gens qui sont religieux le dimanche ou le mardi soir, ou dans les réunions d'église, mais qui après vivent n'importe comment, sans se soucier de Dieu, sans prier, sans lire la Bible, et on donne un contre-témoignage. Alors, imaginez bien Éman, le regard de jugement qui était sur sa vie, parce que son père, c'était notoire. Il était connu comme un hypocrite, puisqu'il était juge, donc il était en position d'autorité, mais en fait, il était faux. Il était censé juger selon Dieu, le peuple, mais il trompait les gens, et donc il était connu comme cela. Et puis, il y avait encore la mémoire de la faute de son arrière-arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Corée, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'était révolté contre Moïse. Pourquoi cette faute était encore là ? Nombre, chapitre 16, verset 38. Parce qu'elle était inscrite. Elle était inscrite sur les lames de l'autel. Nombre, chapitre 16, verset 38. Avec les brasiers de ces gens, c'est-à-dire ceux de Corée, et ceux qui avaient péché avec Corée, avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils se sont sanctifiés. Ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que sur l'autel même, ces lames-là, qui venaient des brasiers de ces gens de Corée qui s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron, elles devaient servir de souvenir, en quelque sorte, en disant « Rappelez-vous de la révolte de Corée. Rappelez-vous de la révolte de Corée. Ne suivez pas l'exemple de Corée, que ce soit pour vous comme un souvenir. » Donc à chaque fois que même Éman passait devant l'autel, il se rappelait de sa propre famille, sa propre histoire, sa propre, la faute de ses ancêtres. Et peut-être, ben c'est le cas de quelqu'un, vous portez encore aujourd'hui la faute de vos ancêtres. Et vous subissez ben, la conséquence de leur péché, de leur égarement. C'est une vraie souffrance. Notez que Éman n'a pas suivi la voie de son père parce que son nom c'était fidèle. Et vous pouvez choisir d'être fidèle à Dieu malgré tout. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre l'exemple de vos parents s'ils ont été infidèles à Dieu. Et vous pouvez vous attacher au Seigneur en premier, même si vous êtes le seul dans votre famille à être chrétien, vous pouvez être fidèle et marcher avec Dieu jusqu'au bout. Un troisième point maintenant, c'est le service d'Éman. Quel était son service ? Et on voit que Dieu n'est pas limité à un contexte familial ou des origines sociales, mais il va appeler cet homme, Éman, il va l'appeler à devenir chantre, conducteur de louanges dans le temple ou dans le tabernacle, et puis il va le qualifier. Éman faisait partie des Kehatites, on l'a vu dans le verset du départ. Qui étaient les Kehatites ? C'était une catégorie des Lévites. Donc parmi les Lévites, il y avait des sous-catégories. Et cette sous-catégorie qui s'appelait les Kehatites avait une fonction bien précise. Ils étaient désignés pour porter les ustensiles du tabernacle. Donc ils avaient une fonction très précise et en fait très sérieuse parce que ces ustensiles devaient être enveloppés par Aaron. Et les Kehatites ne devaient surtout pas ni les voir ni les toucher directement, sinon ils mouraient. Vous voyez qu'il fallait être quand même assez sérieux et précis, parce que si vous faisiez à moitié la chose ou mal, vous pouviez être sanctionné. Regardez Nombre chapitre 4, verset 15, par exemple. On voit ces précisions. Nombre 4, 15. « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat, c'est eux les Kehatites, viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes. » C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas toucher directement les objets sacrés de peur qu'ils ne meurent. Vous voyez qu'il y avait quand même une... C'était à haut risque, quand même. Et puis, telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Et regardez le nombre 4:20. Ils n'entreront point, donc ils n'entreront point dans le sanctuaire pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Donc on voit qu'à deux endroits, ils étaient quand même menacés de sanctions par la mort. Donc on voit que Éman faisait partie de cette section qu'on appelle les Kehatites, qui étaient donc choisis pour leur sérieux et pour, disons, leur rigueur dans le fait de porter les choses saintes du tabernacle sans les voir directement, mais qu'elles devaient être enveloppées. Et à l'époque du roi Josaphat, vous connaissez certainement cette histoire, lorsque Jérusalem était acculée par l'armée ennemie, alors que le peuple d'Israël n'avait pas les forces de se battre et ils étaient inférieurs en nombre, le roi, qui s'appelait Josaphat, a reçu l'instruction de Dieu de placer les chantres et les musiciens à la tête de son armée. Eh bien, la section qu'il a placée à la tête de son armée, c'était les Kehatites. Les Kehatites, donc de la tribu de Lévi, étaient chargés de louer l'Éternel au moment du combat. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22, et c'est là où il y a eu le miracle, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, c'est là où les Kehatites se sont mis à louer le Seigneur et à célébrer Dieu, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. On voit l'intervention miraculeuse suite à la louange, à l'intercession, à l'adoration, la reconnaissance, voilà comment Dieu agit. Et puis par la suite, dans un autre récit, on voit que David a voulu ramener l'arche à Jérusalem. Et la première fois qu'il a voulu ramener l'arche à Jérusalem, il s'y était mal pris. Et donc, il avait utilisé un char avec des bœufs Et c'est un homme qui s'appelait, un Lévite, qui s'appelait Uzza, qui a porté la main sur l'arche de peur qu'elle ne tombe. Et la Bible dit qu'il a été foudroyé parce que c'était totalement interdit de toucher l'arche en toutes circonstances. Donc il a bravé cette interdiction, il a touché l'arche et il a été frappé de mort. Ah, ça a affecté beaucoup David. Il a eu peur de l'arche, il l'a laissée chez Obed-Edom pendant un certain nombre de mois. Et puis, il s'est dit, mais il faut quand même que je fasse venir cette arche. Et il a cherché. Mais comment est-ce qu'il faut faire venir l'arche? C'était écrit dans la parole. Vous voyez, quelquefois, on prend des décisions hâtives, on veut servir le Seigneur, on veut faire des choses, et on le fait d'une mauvaise manière. Mais il y a des... En fait, la parole de Dieu, c'est comme le code de la route. C'est... Tout est indiqué pour vivre heureux et bien réussir sa vie. Et donc, tout était indiqué, en fait, comment est-ce qu'il fallait porter l'arche? C'était pas avec des bœufs, c'était pas avec un char neuf, c'était avec des lévites. Donc cette fameuse tribu mise à part, qui, avec des barres, portait l'arche sur des épaules. Donc il y avait des anneaux sur le côté, sur le côté latéral de chaque côté de l'arche, où les barres passaient, et ensuite on mettait ces barres sur les épaules. Donc il y avait les lévites qui portaient l'arche avec les barres de bois. Bien sûr, sans toucher l'arche. Alors David, ayant lu comment ça se passait dans l'Écriture, il a mis en pratique la parole de Dieu. Et là, on est sûr de ne pas se tromper, frères et sœurs. Quand nous faisons ce que la Bible dit, c'est la meilleure chose à faire. Et effectivement, tout s'est bien passé. Les Lévites ont transporté l'arche. Et là, petite précision, les Lévites désignèrent Héman, ce fameux Héman dont nous parlons. C'est lui qui a été chargé de conduire la louange pendant le transport de l'arche depuis chez la maison d'Obed-Edom jusqu'à Jérusalem. C'est écrit dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 14. « Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec les barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. » Vous voyez, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. La première fois, c'était une erreur avec le char neuf et les bœufs. Donc maintenant, ils ont compris, on prend les lévites et les barres. Donc tout s'est passé correctement. Et David dit au chef des lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, et qu'ils devaient faire retentir le son éclatant en signe de réjouissance. Voilà comment ça se passe. On va transporter l'arche de chez Obed-Edom jusqu'à Jérusalem, mais ça va se passer dans les chants et dans les réjouissances, dans la louange. Qui a été désigné? Les Lévites disposèrent Héman, fils de Joël. On retrouve Joël, son père. Donc c'est Héman. Parmi ses frères, il y avait Asaph, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari, leur frère Éthan, fils de Cushaja. Donc Héman était encore là quand il a été désigné pour conduire la louange pendant ce moment très important du déplacement de l'arche depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à Jérusalem. Et Héman était encore là lors de la dédicace du temple. Tous les sacrificateurs étaient rassemblés. Et il y avait donc Héman avec Asaph et Jedutun, qui étaient dans leurs vêtements avec 120 sacrificateurs et qui sonnaient des trompettes lors de la dédicace du temple. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes et les cymbales des autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. C'est quoi cette nuée? C'est la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui est descendue et qui a manifesté sa sainte présence. Héman était là. Héman dirigeait le culte à ce moment-là. Héman fut même nommé voyant du roi. C'est un petit peu étonnant cette expression qu'on retrouve dans 1 Chronique 25, verset 5. Voyant. Héman, qui était voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Alors, voyant, c'était un autre nom qu'on donnait aux prophètes. Parce que littéralement en hébreu, c'est ra'a, ça veut dire celui qui voit. Bon, c'est traduit voyant, alors c'est peut-être pas très habilement traduit, parce que pour nous, un voyant, c'est autre chose. Ça fait référence à l'occultisme, mais pas du tout ici. Ça n'a rien à voir avec l'occultisme. Ici, littéralement, en fait, si on devait le traduire littéralement, c'est celui qui voit, c'est-à-dire celui qui a une vision spirituelle. Et voyez, le verset, il dit « voyant du roi », donc celui qui voit spirituellement, pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Donc c'est bien « voyant » dans le sens « celui qui voit par la foi », celui qui voit spirituellement, celui qui reçoit les paroles de Dieu. Donc c'est un autre terme que vous trouverez dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Des fois, les prophètes, on les appelle des voyants. Voyants, prophètes. Mais ne faites pas le lien avec les voyants qu'on appelle des voyants aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir. C'est un autre terme. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que Éman faisait partie des prophètes et conseiller particulier de David. Donc, il a été béni, on peut dire, un, ministère de chantre, il conduisait la louange. Deux, prophète, il recevait les paroles inspirées de Dieu. Trois, il était conseiller de David et avait la confiance du roi. C'était donc quelqu'un qui était vraiment dans la ligne droite de la volonté de Dieu. On peut dire qu'il a rempli le plan de Dieu pour sa vie. On peut dire qu'il a excellé dans les dons que Dieu lui a donnés. Et je termine avec une dernière partie, c'est maintenant son témoignage familial dans 1 Chronique 25, versets 5 à 6. « Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luttes, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaf, Jedutun, Éman recevait les ordres du roi. » Ah, quelle famille extraordinaire. 17 enfants. Je n'ai pas encore eu la joie, moi, en tant que pasteur, d'avoir un couple qui a eu 17 enfants. Mais j'espère que ça viendra. 17 enfants, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, quand il y en a un enfant, c'est déjà une montagne. Mais alors deux, c'est énorme. Mais trois, on s'arrête. Trois, on ne peut plus. Alors imaginez 17 enfants. Oui, frères et sœurs, 17 enfants. Alors effectivement, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait plus, déjà, les gens avaient beaucoup plus d'enfants. Mais c'était aussi une grande bénédiction de Dieu d'avoir des enfants. Et c'était aussi une grande responsabilité. Eh bien, on voit que cette famille nombreuse, on pourrait dire très nombreuse, a été fidèle au Seigneur. Si on regarde le texte, ses enfants, ils ont été élevés par ce Père qui aime Dieu, ils ont suivi les pas de leur Père, et ils se sont retrouvés dans le temple, à louer Dieu et à servir Dieu. Et ils servaient dans la louange, dans la musique, comme Éman. Ça veut dire qu'Éman, ben, il a prié pour eux, il a communiqué son zèle pour l'Éternel. Et alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'automatiquement les choses se font, mais les enfants doivent prendre leurs décisions. Ils ne doivent pas se rebeller contre Dieu, ils doivent être fidèles à Dieu. C'est aussi leur responsabilité, leur choix. Mais dans son cas, on voit qu'il y a eu une bénédiction quand même sur cette famille qui a marché dans les voies du Seigneur. Alors on va conclure, on voit ici un homme que Dieu a appelé. Alors que le contexte était défavorable, son père ne suivait pas les voies du Seigneur. Alors quelquefois on dit « Ah, je ne suis pas né dans la bonne famille, je ne suis pas dans le bon endroit, ça va être difficile. » Oui, mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Et Paul dit dans la parole « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Paul lui-même, c'était un persécuteur de l'Église, c'était un homme violent, c'était un homme qui persécutait les chrétiens. Et donc Dieu l'a arraché à ce mode de vie pour en faire un apôtre de la foi. La grâce de Dieu est plus forte que votre hérédité, donc quels que soient vos parents, tout ce qu'ils ont fait, bien, venez en Christ et tout cela va être anéanti. Et puis, le contexte, les fréquentations, les amis, tout cela n'aura pas de pouvoir sur vous. Si c'est Jésus qui domine dans votre vie, bien, ce sera Jésus votre berger, c'est lui que vous suivrez, et la grâce va surabonder dans votre vie. La grâce va dépasser nos échecs, nos déceptions, et même Dieu va se servir des aléas de la vie pour nous amener dans ses voies, dans sa direction. C'est par sa grâce que nous pouvons le servir et faire sa volonté, comme dans le cas d'Eman. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole. Merci pour l'exemple de cet homme qui a été arraché à cette famille tumultueuse, éloigné du Seigneur et qui s'est retrouvé à servir dans le temple. Seigneur, merci parce que tu n'as pas permis qu'il s'égare et tu nous montres un exemple dans ta parole d'un homme qui a su persévérer malgré le mauvais exemple dans sa propre famille, malgré que son père a donné un contre-témoignage. Eh bien, tu as permis que cet homme soit fidèle jusqu'au bout, comme son nom l'indique. Merci aussi pour sa propre famille à lui qui a marché dans tes voies. Tu nous montres que tu veux que nos familles soient bénies, qu'elles marchent dans ta volonté. Nous te prions pour chacun de nos enfants afin que leur cœur se tourne vers toi, afin qu'ils marchent aussi dans tes traces parce qu'ils auront leur choix à faire, ils auront leur décision à prendre. Et bien sûr qu'on ne peut pas les forcer, mais Seigneur, nous prions pour que tu leur parles, pour que tu les touches, pour que tu les attires à toi, pour qu'il se passe un miracle dans la vie de tous nos enfants, de nos familles. Seigneur, pour qu'ils connaissent aussi ta bénédiction et ta grâce. Merci aussi parce que ta parole nous montre que tu fais grâce et tu appelles, tu suscites qui tu veux, comme tu veux, que tu le places au bon endroit. Et nous prions pour que tu nous donnes cette révélation et cet esprit ouvert pour comprendre ton plan et ta volonté et ne pas chercher à marcher selon la chair ou selon des projets humains, mais selon ton esprit, Seigneur. Viens nous parler, viens nous conduire dans ce temps de prière pour que toute la gloire te revienne. Amen.